le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Accepteriez-vous d'être jugé par un algorithme ? Les animaux ont-ils tous les mêmes droits ? Comment parle-t-on de la violence sur Internet ? Histoire, sociologie, médecine, droit, informatique, les bibliothèques universitaires et Radio U s'associent pour créer et diffuser une émission bimensuelle de médiation scientifique. Table ronde sciences et société, rencontre histoire de ma thèse ou histoire de ma recherche viendront nourrir le Lab U sur le 101.1 FM. Internet a été perçu comme une technologie propice au développement de pratiques émancipatrices. Il semble aujourd'hui être devenu un redoutable instrument des pouvoirs étatiques et économiques. Pour comprendre pourquoi le projet émancipateur associé à cette technologie a été tenu en échec, les bibliothèques universitaires de l'UBO et Radio U ont invité Félix Tréguer à présenter son ouvrage « Internet, une utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, 15e-21e siècle » avec Félix Tréguer, chercheur au CNRS, membre fondateur de la Quadrature du Net, interviewé par Valerne Dior, enseignant chercheur en droit, directeur adjoint du LabLex, le laboratoire de droit de l'UBO, et par moi-même, Hervé Lemaine, responsable de la mission de médiation scientifique pour les bibliothèques universitaires de l'UBO. Dans les deux numéros précédents, nous avons interrogé Félix Tréguer sur la place d'Internet dans la construction de l'espace public, sur son usage au nom du principe de la raison d'État, et sur la surveillance du réseau et des luttes face à cette surveillance. Dans ce dernier numéro du Lab U consacré à l'ouvrage de Félix Tréguer, Internet, une utopie déchue, le public brestois, très averti des enjeux de l'Internet libre et parfois acteur, échange avec Félix Tréguer.
Bonsoir. Alors ma question était simple, en fait, c'était sur le truisme dont vous parliez, dont je suis vraiment très intéressé par la réponse. Pourquoi la technologie n'est pas neutre ?
Parce qu'elle est introduite dans un monde qui la façonne et que ce monde il est saturé de rapports de domination et que ces rapports de domination vont du coup influer sur la production de la technologie. Je voudrais juste, parce que c'était aussi votre invitation, citer des ouvrages. Du coup là je parlais d'une critique culturelle de l'informatique qui est à faire. Je vous renvoie à un livre sur ce sujet qui est très important et qui permet aussi de répondre à votre question. C'est « La liberté dans le coma ». Essai sur l'identification électronique qui en est à sa deuxième édition qui est paru l'an dernier du groupe Marcus qui est un collectif d'auteurs et c'est aux éditions La Lenteur. Et du coup j'y pense parce que quelqu'un d'assez proche du groupe Marcus qui est un historien des sciences et des technologies qui s'appelle Guillaume Carnino a écrit un livre qui s'appelle L'invention de la science. Il revient sur la manière dont est apparu le mot technologie et dont la science en tant que mot aussi est entrée dans le vocable courant. Jusqu'au 19e siècle, la science, c'était des savoirs occultes. C'était les sorcières, des choses pas très légitimées au niveau des institutions à l'époque. Et on parle de technique. Le mot technologie n'existe apparemment pas. La technologie s'impose lorsque, en gros, des ingénieurs formés dans les écoles d'État montés pour accompagner la révolution industrielle vont aller dans les ateliers des artisans, observer leurs procédés et tenter de les incorporer à l'unité de fabrication de masse qu'est l'usine. Donc la technologie, c'est bien ce que ça veut dire, c'est la science de la technique. La science des ingénieurs vis-à-vis des procédés techniques qui, de tout temps, ont marqué l'histoire, l'humanité tout entière. Je veux dire, on a toujours eu des outils, on a toujours la technique est consubstantielle de l'humanité. Par contre, la technologie, elle ne l'est pas forcément. Elle est liée à un système de production capitaliste, industriel. Et en cela, simplement en cela, elle n'est pas neutre.
Les ouvrages cités, il y en a un là, il y en aura peut-être un autre après, seront sur les pages web médiation scientifique de l'ABU et seront cités aussi sur Radio U, le site de Radio U, donc avec qui on fera l'émission de radio après.
Merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais deux questions. Concrètement, comment faire pour se limiter en termes d'utilisation de la technologie en tant que citoyen ? Et puis deuxième question, quand on est chercheur et qu'on s'intéresse à la surveillance des États, qu'est-ce qu'on a concrètement comme données qualitatives ou quantitatives pour étudier ces
question.
Pratiques ?
Alors sur le que faire, vaste sujet. C'est pour ça, moi, je parle d'abord d'ouvrir nos imaginaires, sentir à quel point peut-être on vivrait mieux avec moins de technologie, parce qu'en fait, c'est très difficile de s'en passer aujourd'hui lorsque l'ensemble des services publics, dans nos emplois respectifs, dans nos occupations professionnelles ou dans nos loisirs, l'informatique est partout. Donc, on est forcé, évidemment, de l'utiliser. Après, il y a évidemment plein de stratégies qu'on peut mettre en place pour échapper à la publicité ciblée, par exemple installer un module sur son navigateur comme uBlock Origin, et je vous renvoie à un site qui s'appelle bloclapub.net que la Quadrature a monté avec le collectif de résistance à l'agression publicitaire pour permettre de bloquer les publicités et éviter une consommation énergétique indue et en plus rendre nos pages web plus faciles et plus agréables à lire. Bon, on pourrait multiplier les exemples, utiliser les services proposés par Framasoft ou ces projets de logiciels libres, ou d'ailleurs des associés de Framasoft, apparemment il y en a à Brest, du réseau des chatons qui proposent des services en ligne sur une logique d'hébergement beaucoup plus décentralisée, solidaire et respectueuse des libertés. Il y a plein de petits stratagèmes comme ça qu'on peut faire pour augmenter le coût de la surveillance. Et ensuite, c'est aussi, je crois, savoir se déprendre au maximum de tous ces gadgets, refuser l'assistant personnel, refuser la voiture connectée, refuser tout ce qui nous trace jusque dans les recoins les plus intimes de nos existences. Et donc sur la question très pertinente de savoir comment est-ce qu'on enquête sur la surveillance d'État, surtout quand on est quelqu'un comme moi qui... quelqu'un qui veut avoir un discours public et affirmer des opinions qui du coup se grillent des terrains et potentiellement l'accès à certaines sources. Alors c'est pas toujours le cas. En fait, parfois le fait d'avoir une position publique fait qu'il y a quand même des gens dans les services de renseignement ou les services de police qui sont intéressés pour échanger ou discuter, ce qui me vaut d'être parfois invité à des événements où je peux avoir des échanges et glaner des informations que je n'aurais pas eu autrement. Et ensuite, lorsqu'on travaille vraiment sur la sphère du secret d'État, les outils de surveillance au niveau des services de renseignement, on est tributaire de sources telles que les journalistes d'investigation. Donc on a intérêt à bien suivre les quelques journalistes qui bossent sur ces sujets. Et les rapports officiels, les quelques rapports officiels du Parlement, des commissions de contrôle, des services de renseignement, des documents issus des institutions publiques qui permettent de lire entre les lignes et de comprendre des choses qui échappaient essentiellement au débat public jusqu'alors. C'est du bricolage, mais c'est possible.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais vous poser une question par rapport au soulèvement dont vous avez parlé, par exemple à travers le monde qu'il y a eu, et qui peut-être paradoxalement ou pas, je ne sais pas quel est votre avis, ont eu lieu grâce par exemple à Facebook dans de nombreux pays. Si des gens ont pu s'organiser aussi rapidement pour même dans certains mettre à mal des régimes quand même très puissants et clairement pas démocratiques, la communication et le partage des idées et les rassemblements se sont faits via des plateformes comme Facebook qui pourtant, comme vous l'avez énoncé, travaillent avec les États. Donc est-ce que ces plateformes ne contiennent pas en germe leur propre destruction, et comment c'est possible d'utiliser ça peut-être contre eux? Et sinon, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser, de mettre en place des plateformes annexes qui pourraient avoir le même impact, qui seraient aussi efficaces? C'est ma première question. Et la deuxième, ça concerne le fait d'être anonyme, donc en ligne. Est-ce que rien que le fait que de chercher à être anonyme en ligne n'est pas en soi, ne nous rend pas suspect vis-à-vis justement de l'État? Parce qu'on peut utiliser, par exemple, je cite, enfin, les VPN, Tor, tout ça. Déjà, ça réduit la bande passante, donc c'est pas très pratique parce que ça ralentit la connexion et ça peut nous décourager de le faire. Et puis, est-ce que le fait de le faire, on n'est pas déjà suspect, même si ce qu'on a fait est anonyme, mais on est quand même sous la caméra de surveillance? Je vous remercie.
Ouais. Trois excellentes questions, là encore. Sur les révolutions Facebook ou Twitter, notamment celle du printemps arabe en 2011, qui ont donné lieu à beaucoup d'interprétations de ce type, ces outils qui ont permis ces révolutions. Je pense qu'il faut se rappeler, en fait, c'est pas Facebook ou Twitter qui ont permis ces révolutions, ça a été des outils dont se sont saisis les mouvements sociaux dans ces différents pays. Ou les gilets jaunes, on pourrait prendre aussi cet exemple en France qui utilisait beaucoup Facebook pour s'organiser, parce qu'en effet c'est des outils extrêmement pratiques qui sont utilisés par tout un chacun désormais, et donc il est logique que les mouvements sociaux s'en saisissent. Après, ça amène aussi certains problèmes, et là je renverrai à l'ouvrage de Zeynep Tefukçi, qui est une universitaire turque qui travaille aux États-Unis et qui a écrit un livre dont j'oublie le titre en français, Je crois qu'en anglais c'est Twitter and Tear Gas, mais ça a été séparé aux éditions CEF, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je pourrais vous retrouver la référence.
Et oui, qui le nom de l'auteur ?
Zeynep Tefuksi, donc c'est Tefuksi. Voilà, un nom turc. Et qui est une sociologue en fait, des médias, qui travaille beaucoup sur Internet et qui est une des universitaires les plus intéressantes sur ces sujets, et qui rappelle à quel point ces outils permettent en effet des mobilisations très rapides et des formes d'organisation qui permettent du jour au lendemain d'être des milliers à descendre dans la rue, ce qui n'était pas possible avec les technologies, ou en tout cas très difficile avec les technologies antérieures. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a une croissance trop rapide presque des mouvements sociaux qui fait qu'une fois qu'on se retrouve dans la rue, outre le fait de s'opposer à un dictateur, on n'a pas forcément un projet commun et des formes d'organisation qui permettent de durer et de résister, notamment à la répression. Et de fait, les révolutions du printemps arabe ont fait plutôt long feu, à part à de rares exceptions près, comme peut-être la Tunisie en constituerait une. Sur la seconde question, qui était, alors j'ai noté interopérabilité, mais c'était sur comment défaire le pouvoir de ces acteurs. Est-ce que ces acteurs ne portent pas le germe de leur propre destruction? Je ne le crois pas, à moins d'aménagement, enfin à moins d'une prise de conscience massive et de l'émergence d'alternatives telles que celles proposées par Framasoft, hein, qui est en fait plutôt une vitrine sur plein de projets de ce type. Les outils sont là. Pour renverser la donne, en fait, il faudrait casser les monopoles d'une entreprise comme Facebook sur le réseau social ou Google sur la recherche et l'hébergement de mails et autres documents collaboratifs, tous les services Google. Les alternatives existent. Pour nous encourager à migrer, il faudrait en fait casser les effets réseau qui font qu'on n'a pas envie de partir de Facebook pour utiliser le service Diaspora, qui est l'équivalent chez Framasoft, parce qu'on va se retrouver avec 15 gus et pas vraiment les gens à qui on a envie de parler. Et donc, pour permettre en fait ces migrations et casser le monopole de ces acteurs, à la Quadrature du Net, on a proposé ces derniers mois le concept d'interopérabilité. De la même manière que les protocoles du mail vous permettent d'héberger un service mail sur n'importe quel serveur, et ces serveurs peuvent discuter les uns avec les autres, et donc on peut comme ça gérer en fait son hébergement de mail sans se couper de communication avec la planète entière s'il le faut, on devrait pouvoir partir de Facebook, aller sur un service équivalent et pouvoir être en mesure de continuer à communiquer avec les personnes qui sont restées sur Facebook. Quand on a proposé ça, notamment comme aussi solution au modèle toxique qui génère et fait proliférer et rend extrêmement problématiques les discours de haine, notamment dans le cadre des débats actuels sur la proposition de loi Avia qui est en cours, en fin d'examen parlementaire en France, le secrétaire d'État au numérique Cédric O nous a dit que c'était trop agressif vis-à-vis des plateformes. Et enfin, sur la question de l'anonymat, en effet, le fait d'utiliser un réseau comme le réseau Tor, par exemple, qui est un réseau d'anonymisation, peut être un facteur de suspicion. Et on sait que plusieurs agences de renseignement collectent par défaut le trafic chiffré en espérant, dans quelques années, pouvoir massivement casser les codes de chiffrement et avoir accès en clair à ces communications où, en fait, l'idée, c'est si ces gens cachent des choses, c'est que c'est sans doute des choses intéressantes pour nous. Du coup, l'enjeu, et c'est quelque chose effectivement qui est souvent rappelé par les promoteurs et les activistes du projet Tor, c'est que l'enjeu, c'est qu'on soit le maximum à utiliser ces outils pour noyer dans la masse des communications celles qui sont les plus suspectes et les plus intéressantes et pourtant légitimes en démocratie, hein, même si de fait on contribue aussi à masquer des communications de personnes malveillantes et de délinquants et d'afro-criminels et de potentiels terroristes. C'est aussi des outils qui sont utilisés par des dissidents, défenseurs des droits de l'homme et pour tout un tas d'usages tout à fait légitimes. C'est toute l'ambiguïté de ces technologies, mais néanmoins, c'est aussi pour ça qu'il est important d'être un maximum à les utiliser. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même un usage plus répandu qu'il y a quelques années d'un réseau comme Tor et que sans doute l'obstacle est moindre. Après, quant à savoir quel est l'état des capacités des services de renseignement en matière d'analyse en masse du trafic chiffré, parce qu'il y a toujours des moyens, par des formes de surveillance ciblées, de contourner le chiffrement, mais ça reste à voir. Et c'est vrai que, faute de lanceurs d'alerte, on est un petit peu démunis pour savoir où en est aujourd'hui, où en sont les systèmes de surveillance contemporains. On a un état de l'art qui date du tout début des années 2010 avec Snowden, mais ça commence à faire quelques années maintenant. Les technologies progressent, les modes opérationnels aussi, et on a assez peu d'informations, pour le coup, sur les pratiques contemporaines en la matière.
Bonsoir. Donc Vincent de Brest-Lallée Citoyenne. Je voulais vous remercier pour commencer pour votre travail, parce que c'est, enfin, moi, la quadrature du net, je la connais depuis 2009, il me semble, avec la loi Hadopi à l'époque. Et c'est vraiment là qu'on a commencé à entendre, enfin, le grand public en fait a commencé à entendre parler de d'être sensibilisé sur ces enjeux-là. Et du coup, pour répondre tout à l'heure à quelqu'un qui disait aussi qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, c'est vrai qu'il y a trois grandes familles dans les manières de lutter. Il y a évidemment celle des logiciels, c'est-à-dire prendre de l'open source, voire même aller sous Linux, parce que ça évite justement les portes, les backdoors, comme on dit. Il y a les serveurs, c'est-à-dire évidemment et tout ce qui est service hors GAFAM, tout ça. Enfin, je ne vais pas insister, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Et moi, par contre, je voudrais davantage mettre en lumière peut-être, parce qu'on a parlé des GAFAM, mais on n'a pas parlé des BOFS. Donc là, je vais peut-être expliquer Bouygues, Orange, Free SFR. C'est vrai qu'en gros, c'est la troisième, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est les personnes qui maîtrisent les réseaux et qui, effectivement, font la police. C'est-à-dire que souvent, l'État leur dit, vous allez sanctionner ces gens-là parce qu'ils ont fait ça, quoi. Et donc là-dessus, c'est pas mal ce que vous avez parlé de la FFDN notamment. Et j'ai une petite expérience à partager avant de poser une question ensuite. C'est dans la FFDN, il y a Griffon notamment, mm-hmm. qui est un FAI associatif qui fournit de l'Internet et du VPN sur la région Bretagne. Et malheureusement, en fait, moi, je les ai contactés en octobre dernier en disant que j'aurais souhaité être abonné à partir du mois de janvier. Donc, je me suis pris 3 mois avant en me disant, bon, c'est une asso, voilà, faut y aller tranquille, on n'est pas client, quoi. Et ça n'a pas marché. C'est-à-dire que du coup, leur com interne n'était pas très efficace, mon adhésion s'est perdue. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça. Et je me disais qu'en fait, même pour les gens qui sont un peu sensibilisés, qui voudraient du coup quitter les bofs entre guillemets pour pouvoir avoir un internet qui est non filtré, qui est pas surveillé, un peu comme manger bio finalement. C'est très difficile parce qu'en fait, on voit qu'ils sont entre eux, ils ont les connaissances, mais il y a le fait de pouvoir se remettre au niveau du grand public. Et ça, c'est peut-être un levier d'accès où vous, en tant que personne qui a autorité un petit peu dans le domaine ou qui du moins est balisé, pourrait peut-être aller sensibiliser ces gens-là, pas forcément un Griffon, mais du moins tous les assos qui font du FAI associatif, d'avoir un processus interne et d'être prêt à accueillir des gens, parce que je pense que de plus en plus de gens vont être intéressés par ça. Et enfin, j'en viens à la question sur le sujet. Hein. Donc les FAI associatifs louent un accès à la boucle locale auprès d'Orange, donc anciennement France Télécom. Donc, ce qui explique pourquoi leur prix est plus élevé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'économie d'échelle et ils sont obligés de payer l'accès. Moi, la question que j'ai, c'est quid du coup de la surveillance ? Est-ce que finalement, on ne passe pas quand même par les bofs et par la possibilité qu'Orange peut surveiller la boucle ? Voilà, je voulais être rassuré ou au contraire désillusionné.
Alors, je verrais, pour le coup, effectivement, ça n'immunise pas du tout le fait d'utiliser un fournisseur d'accès associatif des formes de surveillance au niveau de l'infrastructure réseau. On peut toujours pratiquer des interceptions de sécurité sur votre ligne au niveau... en fait, ça ne se situe pas au niveau de la boucle locale, mais sans doute au niveau des répartiteurs. J'oublie le terme technique en matière de réseau IP, de NAS, je crois. Deslam, merci. Ou au niveau des stations d'atterrissement, des câbles sous-marins. Et donc effectivement, le fait d'être... Il y a plein d'autres aspects bien plus intéressants et qui immunisent de formes de surveillance commerciale ou de formes de blocage et de censure, effectivement, qui sont pratiquées par l'État, au travers des grands opérateurs télécoms, blocage DNS et autres choses de ce type. Mais donc ça a ses limites. Je partage votre frustration sur le fait que évidemment le monde associatif, c'est souvent des gens qui travaillent bénévolement sur leur week-end, qui ont plus ou moins de temps à y consacrer. C'est d'ailleurs un temps variable et peut-être que pendant un an, un projet va va pouvoir s'organiser, décoller, et puis pour une raison X ou Y, parce qu'il dépend de l'investissement de deux ou trois personnes, si une personne vient à devoir se mobiliser sur autre chose, déménager, que sais-je, ça peut porter un coup fatal à l'attrait des services offerts sur un mode coopératif et solidaire par cette entité. Dans la fédération FDN, moi j'habite à Marseille, où il y a Téléragno qui était aussi membre de la fédé FDN, et ils ont disparu il y a quelques années. Après, il y a certaines villes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Grenoble, à Paris maintenant, où les associations là sont très dynamiques, et je pense que vous n'auriez pas eu les mêmes problèmes. Mais en effet, c'est les vicissitudes de la vie associative. Moi, j'ai terminé l'an dernier un projet de recherche où pendant 3 ans au niveau européen, on a cherché à documenter, à accompagner ces groupes et à leur ménager aussi des espaces dans le droit au moment de la révision du paquet télécom au niveau européen, avec succès sur ce plan-là. Mais donc, ouais, je connais bien le milieu et je mesure bien que, en tout cas en France, dans plein de contextes locaux, c'est pas évident de. Mais voilà, c'est juste. Le modèle existe, on sait comment faire, il faut juste trouver les gens compétents et disponibles pour monter ces projets et les faire tourner.
Alors moi, je voudrais juste compléter et apporter un retour positif sur les fournisseurs d'accès à Internet associatifs. Parce que moi, je suis mon fournisseur d'accès à Internet, c'est FDN. Depuis 2018, j'étais contactée en août. En août, j'avais ma connexion. Donc voilà. Tu peux demander un VPN chez FDN aussi. Et j'en profite pour dire que j'organise un FDN camp fin mai. Peut-être en juin, à voir. Enfin, on verra ça sur l'agenda du livre, donc agendadulibre.org. C'est une rencontre de plein de bénévoles, d'adhérents de FDN qui seront présents et on pourra discuter, échanger, travailler, faire avancer les projets, tout ça. Donc, n'hésitez pas à venir. Et pareil, tout à l'heure, vous parliez des chatons. On a un chaton à Brest qui s'appelle Infini. Et donc, ils ont un local rue Anatole France. Et pareil, ils organisent des apéros dînatoires. Donc, on peut aller les rencontrer, on peut discuter. C'est des vraies personnes. Et c'est pas comme derrière Orange ou Facebook ou je sais pas quoi, enfin, et c'est des vrais gens, et vous pouvez héberger votre adresse internet, vous pouvez héberger votre site internet, enfin, et évaluer avec eux et puis les aider et puis adhérer, voilà, faire un don, ça peut être bien aussi. Donc voilà, vous pouvez aussi faire un don à la Quadrature du Net, ça peut aider. Voilà.
Merci.
Donc voilà.
Moi, j'ai une question par rapport à l'encadrement, en fait, parce qu'il me semble que parler des FDN, des opérateurs et de la surveillance, oui, il y aura toujours de la surveillance, c'est un fait. Les États auront besoin de protéger, de se protéger. Et Internet, c'est un moyen de plus de communiquer dans l'absolu, mais il y en a eu d'autres avant. Et les problématiques étaient les mêmes, comme vous dites, depuis le 15e siècle, la raison d'État, la raison économique, la raison politico, géopolitico, tout ce que vous voulez. C'est plutôt l'action au niveau européen, peut-être, au niveau international entre les pays pour cadrer l'usage, la protection des individus qui est plus efficace. Enfin, j'essaie de voir un petit peu ce qui avance au niveau de la quadrature parce que je n'ai pas suivi depuis un moment. Qu'est-ce que vous faites finalement pour pousser le droit vers plus de...
Ben, ce qu'on fait au niveau juridique, au niveau européen. Alors, on fait des actions de plaidoyer, c'est-à-dire d'influence législative au niveau français et au niveau européen, et on fait aussi des recours contentieux, notamment depuis 2015, devant le Conseil d'État, contre les décrets d'application, par exemple, de la loi renseignement, qui sont justement qu'on a fini par porter devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui est l'une des dernières grandes juridictions, parce que la Cour européenne des droits de l'homme est en train un peu de rendre les armes dans sa jurisprudence face justement à ses capacités de surveillance massive. La CJUE, donc à Luxembourg, la Cour de justice de l'Union européenne, est la dernière à vraiment tenir une jurisprudence assez ferme contre le principe d'une surveillance généralisée, indiscriminée, indifférenciée de la population. Il y a plusieurs décisions très fortes rendues en la matière depuis 2014 par cette juridiction. C'est un peu le dernier espoir. En tout cas, c'est le dernier rempart institutionnel en matière de surveillance des communications. Et donc oui, c'est le dernier, sans doute un maigre rempart, puisque les pressions des États et de certaines juridictions comme le Conseil d'État en France sont très fortes pour l'amener à revoir sa jurisprudence et à permettre, par exemple, sur le dossier de la conservation généralisée des données de connexion, donc en gros, votre carnet de communication Internet, quand vous vous êtes connecté, la géolocalisation aussi sur votre téléphone, enfin tout un tas de métadonnées, ce qu'on appelle les métadonnées que les opérateurs télécoms doivent conserver sur toute la population et que les États peuvent ensuite venir sonder à l'envi, soit au travers de requêtes administratives des services de renseignement, soit dans le domaine judiciaire. Et ça, la Cour de justice de l'Union européenne a dit non, on ne peut pas mettre toute la population et ses carnets de communication et ses activités sous surveillance au prétexte de devoir être en capacité de retourner et de, a posteriori, sonder dans cette histoire, dans ce carnet d'activités. C'était une jurisprudence très forte et très importante. Et là, on essaye de la faire valoir contre les lois de surveillance françaises qui instaurent des formes de surveillance massive. On espère avoir une décision d'ici le printemps, sans doute, et on espère qu'elle sera positive. Mais c'est pas gagné.
Surveiller tout le temps, en fait, on n'a pas de... Enfin, tout le monde n'est pas surveillé. Il y a des moments où, effectivement, il y a des surveillances qui se mettent en place parce qu'il y a des événements qui provoquent ça. Mais il y a une espèce d'imaginaire, finalement, sur la surveillance qui est complètement hors de propos, en fait, avec la réalité. Il y a tellement de volume de données que,
bien
de
sûr,
toute façon, c'est pas possible de surveiller.
Non, mais la capacité à surveiller tout le monde... Et là, et en fait, les capacités de surveillance sont décuplées. Et le simple fait, justement, par exemple, de pouvoir imposer la conservation de toutes les métadonnées pendant un an, ce qui est vraiment non seulement dans le droit, mais en plus pratiqué. Alors, effectivement, la plupart, l'immense majorité, si ce n'est la quasi-totalité de cette masse de communication n'est jamais sondée, mais elle est à disposition. Et donc, ça offre quand même des capacités de surveillance très forte, qui dans son principe est assez attentatoire au principe d'une, par exemple, du fait qu'une ingérence dans les libertés publiques est conditionnée à une présomption de culpabilité, ou en tout cas, oui, des formes de suspicion préalable qui font en l'espèce complètement défaut, mais toute la population, y compris des gens pour lesquels il n'y a aucune raison d'avoir aucune suspicion, sous surveillance, en tout cas on conserve leurs données au cas où. Et ça, dans son principe même, c'est, et la Cour de justice de l'Union européenne l'a très bien dit dans sa jurisprudence, c'est pas tolérable dans un état de droit qui se respecte.
C'est la question des finalités, en fait. C'est le critère des finalités qui est développé en droit de l'Union européenne, dans le RGPD, et qui commence à être copié par un certain nombre d'États. Là, il y a plus de 100 États actuellement qui ont adopté des législations de protection des données personnelles qui, pour l'essentiel, sont... C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous avez dit, que peut-être que la CJUE est l'un des derniers remparts, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les États qui sont les plus soucieux de protéger les données et la vie privée de leurs citoyens adoptent des législations qui sont clairement des copies des règles européennes. Donc c'est peut-être finalement la Cour de justice qui est la plus protectrice à l'heure actuelle. Le salut ne viendra pas du droit international, et pourtant je suis spécialiste de droit international. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus des États sur ces procédés. Donc, le salut viendra peut-être plutôt de l'Union européenne et d'un mimétisme d'autres pays qui voudront justement s'aligner sur ce régime.
Et pour revenir, parce que c'est très important quand même, un tout petit instant sur cette idée d'une surveillance massive qui est en fait une formule peut-être effectivement pas très exacte. Il faudrait dire une surveillance à grande échelle. Tout le monde n'est pas constamment sous surveillance. Mais justement, peut-être que les sujets là sur lesquels on commence à travailler autour de la surveillance urbaine avec la vidéosurveillance automatisée, où on peut reconnaître, identifier des personnes à travers leur démarche, leur tenue vestimentaire, et donc automatiquement dire à la machine, va regarder dans les stocks d'archives des caméras de vidéosurveillance toutes les fois où cette personne a flashé devant une caméra de surveillance. Enfin, ça offre des capacités qui étaient inimaginables il y a encore quelques années. Et bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais on sait aussi que dans les pratiques des autorités, y compris dans nos régimes dits démocratiques, il y a des gens engagés politiquement. On le voit bien, les formes de violence aujourd'hui qui s'abat sur les manifestants qui sont censés se livrer à des activités politiques tout à fait légitimes en démocratie. Qui sont en proie à des dispositifs répressifs parfois très violents. Donc ça peut être aussi à travers des formes de surveillance a priori indolores et très souvent invisibles, mais qui transforment complètement en fait les formes de contrôle social. C'est une note du Créogne qui est le centre de recherche des officiers de la gendarmerie nationale, qui dans une note sur la reconnaissance faciale au mois de septembre explique noir sur blanc que la reconnaissance faciale va mettre fin à des années de polémiques sur le contrôle au faciès, donc des formes de contrôle d'identité discriminatoires visant des personnes de couleur ou en tout cas ayant une apparence suspecte aux yeux des forces de l'ordre. Ça va mettre fin à ces polémiques parce qu'en fait ça instaurera un contrôle d'identité permanent, généralisé, et plus loin, ils expliquent invisible, et donc quasiment incontestable. Parce qu'à chaque fois que l'on flash devant une caméra, on est potentiellement identifié. Et en fait, il faut aussi se poser la question des formes d'autocontrôle. Là encore, l'auteur de cette note explique que ça permettra aussi de réduire le nombre d'incivilités parce que cette surveillance constante imposera des formes d'autocontrôle. Moi, je me suis surpris tout récemment, je vis à Marseille, où de la vidéosurveillance automatisée a récemment été installée. Je crois pas on sait que par exemple que dans le métro parisien, quelqu'un qui se met à courir, c'est suspect dans les couloirs de métro, et que du coup, il y a des petites alertes qui remontent aux opérateurs de vidéosurveillance. Je me suis surpris, étant en retard pour prendre un train, à courir dans la rue et à m'arrêter en imaginant que la caméra de vidéosurveillance qui était à proximité peut-être repérait ce comportement et le qualifiait de suspect et donc me faisait apparaître sur l'écran d'un opérateur à quelques centaines de mètres de là où j'étais.
Le temps file, peut-être une dernière question.
Dernière question. Alors désolé, je repique le micro. Justement, quelle serait la place du droit exactement dans toutes ces formes d'utilisation de la technologie qui sont vraiment très problématiques, parce que, à part apparemment des actions personnelles, finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution, mais justement le droit a la capacité d'interdire et la capacité d'œuvrer pour le bien commun, donc... Je vois pas, et même en fait, ça questionne plutôt le rapport de l'État à ces technologies aussi. Et on a besoin du droit pour pouvoir avoir une scalabilité au niveau de toute la population. Puisque bon, moi, je parle avec mes colocataires, avec mes amis, c'est difficile. Je parle de ces sujets-là et c'est vraiment difficile. On est à 20 000 lieues de leur faire prendre conscience. Quoi.
Quand vous parlez avec des députés, c'est très difficile aussi, je vous assure.
Je m'en doute. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité ?
Je vais répondre rapidement. Peut-être que Valère voudra compléter. Moi, il me semble que, comme je l'ai dit, le droit est une arme nécessaire mais insuffisante pour faire face à ces phénomènes et que l'enjeu, il est proprement politique, il est dans les prises de conscience et que donc il faut... Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas résigné, même si je suis un peu pessimiste. Je crois qu'il faut continuer à en parler, continuer à réfléchir à des modes d'action, à des stratégies militantes qui permettent de faire prendre conscience, de marquer, d'affirmer notre refus de ces formes de contrôle. Les recours contentieux, c'est une manière de le faire. On en fait aujourd'hui, par exemple, sur les questions de reconnaissance faciale. On sait aussi que ce faisant, on risque, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun encadrement en fait, des activités, des usages policiers de la reconnaissance faciale, alors que là encore, la jurisprudence l'impose. Donc, en gros, on risque de gagner ces recours. Mais ce faisant, on va sans doute accélérer l'adoption d'une loi qui autorisera la reconnaissance faciale en mettant quelques garde-fous qui seront complètement insuffisants face aux formidables enjeux politiques que ces technologies soulèvent. Donc voilà, il faut se battre, continuer à réfléchir, à discuter, à organiser des formes de résistance et de prise de conscience. Même si le contexte ne semble pas vraiment porteur, et il ne l'est pas vraiment, il faut aussi se souvenir que l'histoire elle est contingente et que c'est y compris dans des moments où la partie semble perdue, que les choses peuvent se renverser et que le petit travail de fourmi de mobilisation et de résistance pourra porter ses fruits. Donc il ne faut pas perdre espoir.
Merci à Félix Tréguer, chercheur au CNRS, membre fondateur de la Quadrature du Net, et à Valère Ndjor, enseignant-chercheur en droit, directeur adjoint du LabLex, le laboratoire de droit de l'UBO. Dans les trois prochains numéros du LabU, nous nous intéresserons aux aidants. Qui sont-ils? Comment vivent-ils au quotidien? Comment les aider? À suivre dans le prochain numéro du LabU. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.